Le catholicisme romain, une église romaine qui s'est séparée de l'orthodoxie depuis l'XIe siècle. Quelles sont ses caractéristiques? C'est à cela que nous devons accorder une attention particulière en ce moment. Quand nous étions en Union soviétique, ce n'était pas très important. Maintenant, c'est très important. Je viens dans les monastères catholiques en Europe et je demande « Quelle est votre bibliothèque ?» Oh oui, c'est merveilleux. Comment vont les saints pères? S'il vous plaît, les voici, les anciens pères. Sur quoi vous guidez-vous dans votre vie spirituelle? Ignace Loyola, exercice spirituel, François d'Assise, Catherine de Sion, Thérèse d'Avila, etc. Oui, qui sont-ils? Nous commençons à voir qui ils sont et avec étonnement, nous demandons comment les saints pères de l'ancienne Église unifiée se tiennent sur les étagères. Ils sont là, mais personne ne les lit. L'Église catholique dans sa vie, les monastères sont guidés pas par les anciens pères, mais par les nouveaux pères qui sont nés déjà dans une scission et qui prêchent les principes de la vie spirituelle directement opposés à ceux qui ont été établis par toute l'expérience millénaire de son père. C'est l'expérience contraire. Comment ça? Ce que les anciens pères appelaient une illusion, interdit catégoriquement de le faire et si c'est glorifié comme un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est? Tous les monastères catholiques modernes ont les exercices spirituels d'Ignace Loyola, qui est le fondateur de l'ordre des jésuites au VIe siècle, comme leur livre de bureau. Quelle est l'idée principale? Celui qui veut progresser dans la vie spirituelle doit faire les exercices tous les jours pendant une certaine période de temps. Les exercices d'imagination. Imaginez, je ferme les yeux et je rêve, j'imagine quoi? Une jeune fille est assise, lit les saintes écritures et soudain, un archange se présente et dit « Réjouis-toi, imaginez ce qui lui arrive, à quel point elle est effrayée, comment la conversation s'est déroulée, comment elle s'est comportée, imaginez cela, répétez, c'est un film. » Imaginez comment elle se rend ensuite chez Elisabeth. Les sentiers de montagne, les paysages, les champs des oiseaux, des herbes. Imaginez qu'elle vient voir Elisabeth, comment ils se rencontrent, s'embrassent, parlent. Et je vis dans mon monde imaginaire. C'est ce qu'on appelle les exercices spirituels. Saint Piment a dit, si vous ne voulez pas devenir fou, n'imaginez rien, jamais. Pas de peinture, ni d'imagination. C'est strictement interdit. Parce qu'alors nous commençons à nous tourner non pas vers Dieu, mais vers nos fantaisie. Je pourrais vous donner de nombreux exemples et de ces saints. Beaucoup d'entre eux sont terribles. Thérèse d'Avila dit, « Bien-aimé, c'est-à-dire le Christ, appelant-il sifflement qu'il est impossible de ne pas l'entendre, et là, hélas du désir. » Elle s'appelle Christ, et donc, il dit, « Avant, j'étais ton Dieu, et maintenant, je suis ton épouse. » Elle tombe d'épuisement. Et je n'ai même pas envie d'en parler. C'est désagréable. L'image même de la prière dont parle l'orthodoxie, l'esprit doit être pur et invisible, sans image ni idée. L'esprit doit être enfermé dans les mots de la prière. Et la prière doit être faite avec repentance, révérence, cœur brisé et attention. L'orthodoxie met strictement en garde à ce sujet. Et il y a un théâtre pour vous, un phénomène sans précédent avec François d'Assise. Aucun des grands saints avant lui n'avait jamais eu de stigmates, blessures sanglantes et non cicatrissant sur les mains et les pieds. Les saints ont leur plus grand état. Macarius le Grand était appelé le Dieu de la terre par les anciens pères. Le visage de Sisoy le Grand brillait comme le soleil avant sa mort. Il n'y avait pas de stigmate. Quel est le rapport avec les nerfs et l'âme? La grâce et les nerfs sont des réalités très différentes. Et soudain, au XIIIe siècle, il y a François qui est frappé de flèches d'anges. Et à ce endroit, il a des éclairs, des blessures du Christ. Et là-bas, c'est considéré comme un signe de la plus grande sainteté. Il a comparé au Christ. Il répète le Christ lui-même en toutes choses. Il choisit 12 disciples. Il fait sa dernière scène. Il est écrit dans sa biographie que lorsqu'il est mort, Dieu le Père était confus quant à savoir s'il fallait donner la préférence au Christ ou à François. Pensez-y. Bien sûr, on peut écrire n'importe quoi, mais c'est devenu une véritable foi. Et donc l'enseignement catholique sur les mérites et contraire à l'évangile et à tout héritage de son Père. Le Christ a dit, si vous faites ce qu'on vous dit, considérez-vous comme l'humble serviteur. Je me demande qui peut faire toutes les choses. Macarius le Grand a écrit, Dieu, purifie-moi du péché. Je n'ai jamais rien fait du bien avant toi. C'est lui, le grand ascète. Rien a fait du bien avant toi. Et quelle est la doctrine? Là-bas, je peux gagner pas seulement les mérites de mes bonnes actions, mais je peux aussi obtenir un crédit supplémentaire si je renonce au mariage, à la propriété, etc. Imaginez la vanité d'un homme qui a une haute opinion de lui-même, cette conscience. Thérèse la Petite est venue au monastère et Elle a dit, je suis venue au monastère pour prière, pour les âmes des pécheurs et surtout pour le clergé. Elle ne priera pas pour elle-même, car elle a un super Dieu. Elle est allée au monastère. C'est terrible. Et c'est une doctrine qui affecte la vie spirituelle. Je peux avoir des super mérites. Vous entendez que je suis fierté. Ne vous approchez pas de moi. Horrible, horrible. Je ne parle pas du papisme ou de quoi que ce soit d'autre. Le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais le papisme dit, non, désolé, de ce monde. C'est pourquoi je ne peux pas accepter et considérer l'enseignement catholique comme une vérité. Voilà pourquoi. J'ai participé à de nombreux dialogues avec des catholiques. Ces questions ne sont jamais posées. Nous ne parlons que de différentes abstractions, mais pas de l'essence de la vie humaine. Quel dommage!